Il est l'heure, très chers auditeurs, de retrouver Béatrice Reynaud, responsable tourisme et marque au Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Bonjour Béatrice.
Bonjour Margot.
On va évoquer avec vous, Béatrice, comme nous l'avons fait avec l'ensemble de nos invités, le tourisme de demain, d'une part, et la situation actuelle, d'autre part, avec cette crise sanitaire qui accompagne notre quotidien depuis près de 2 ans maintenant. Elle a été ressentie par rapport à la fréquentation du parc?
Oui, ça s'est ressenti de diverses manières. Il y a eu tout d'abord pour les structures qui accueillent des vacanciers, eh bien, ils ont vu arriver, surtout la saison 2020, des personnes qui avaient l'habitude pendant leurs vacances d'été de partir à l'étranger assez loin et qui ne pouvaient pas ainsi se dépayser et qui ont essayé d'imaginer un dépaysement davantage dans la proximité et qui l'ont trouvé. Ça a été une rencontre en fait réciproque entre des structures qui recevaient des clientèles qu'elles ne connaissaient pas ou alors de manière très ponctuelle le week-end comme ça une petite échappée et qui les recevaient sur du long cours et pour ces clientèles-là de se rendre compte que il existait des sources de dépaysement près de chez soi, moins loin en tout cas. Mais aussi avec tous les questionnements que ça suppose. C'est pas les mêmes prix en fait. Le rapport qualité-prix est pas forcément le même quand on passe une semaine à Djerba et qu'on passe une semaine à Capsieu. On est quasiment à des prix identiques, mais avec des niveaux de service qui requièrent davantage d'autonomie de la part des vacanciers, des clients. Donc ça questionne aussi. Forcément, un service local, ça a un prix, c'est des compétences, c'est du temps. Et ce n'est pas la même chose que de partir à l'étranger avec des prix souvent imbattables. Donc ça a peut-être fait du bien aussi, il faut l'espérer en tout cas durablement, sur ce qu'il y a derrière le prix et qu'est-ce que veut dire la valeur d'un service.
On va évoquer évidemment cet aspect financier, économique. À l'échelle du parc, comment vous envisagez la prise en compte de cette crise et puis des différentes crises qui s'y ajoutent ou qui existent déjà, à savoir la crise environnementale, la crise économique et puis la crise sociale qu'on évoquait en off.
Je compléterai quand même sur un autre point parce qu'il y avait deux constats qui ont été vifs chez nous. Le premier que j'ai évoqué et un second qui est davantage celui de la pratique de loisirs à la journée, à la demi-journée. Et on a vu énormément de monde se précipiter sur des poches de nature. C'est légitime, on en a énormément besoin, sans forcément avoir les codes. Certains milieux chez nous ont particulièrement été concernés, par exemple les vallées de la Leyre. C'est magnifique, c'est un espace qui est préservé, rivière sauvage, entièrement Natura 2000, en site inscrit. Et c'est pas un décor, c'est pas un stade, c'est pas un lieu instagrammable où on vient découvrir, s'amuser, patauger. C'est un site très sensible, c'est un milieu vivant. Et tout un public nouveau en mal de bonheur, en mal de réjouissance, d'amitié, de moments à plusieurs, sont venus fréquenter des espaces comme celui-ci. Et notre boulot, ça a été de mobiliser FISA, des messages, la presse, les services de l'État, pour qu'il y ait un maximum de codes de transmis afin que ce désir légitime de découverte se fasse sans dégâts sur les milieux. Donc ça, c'est un point vraiment, c'est l'autre point important. Ensuite, les crises. Ce qu'on a constaté dans le parc, c'est que le fait d'avoir animé depuis des années une démarche de transition écologique du tourisme avec les acteurs en présence, on pense que ça a peut-être été un facteur supplémentaire de résilience de ces acteurs-là. À partir du moment où on prend la mesure de sa place dans le monde, dans l'environnement de manière générale, quand on prend la mesure aussi de la ressource que ça représente et de la plus-value que ça représente aussi pour les clients que l'on accueille, peut-être que ça rend plus humble, ça rend plus habile, ça cultive le sens de l'adaptation. Et très vite, quand la crise sanitaire est arrivée, il y a eu ces recours qui ont été mobilisés. D'abord, le fait de travailler en collectif, on n'est pas tout seul, c'est pas individualiste. On travaille en réseau avec ses voisins, avec d'autres acteurs proches avec lesquels on partage des valeurs. Et en fait, je pense que cette capacité d'adaptation, le fait de la cultiver depuis des années, c'est aussi un point de plus pour faire face à celle qui est là en place, hein, c'est la crise climatique, parce qu'elle est présente. On fait un travail énorme depuis 15 ans pour en limiter l'impact du tourisme sur le changement et les dérèglements climatiques, de plein de manières, dans la façon de produire, dans la façon d'accueillir, dans la façon de se déplacer. C'est un travail de fond. Pour autant, c'est pas suffisant, hein, le tourisme, ce n'est que à peu près 11% de l'impact sur le dérèglement climatique. Mais le fait d'avoir un peu la main là-dessus, d'être acteur là-dessus, ça nous permet d'être plus résilients là aussi, en tout cas de se poser les bonnes questions assez vite sur le fait que le changement climatique, il est là et il impacte l'activité touristique. Donc c'est un gros chantier qu'on engage dès à présent.
Et donc par rapport à cette sensibilisation du public qui a dû être faite nouvellement, puisque vous évoquiez de nouvelles personnes, des gens qui découvraient ce parc, et les merveilles qu'il renferme. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi sensibiliser le public à ce qui se passe aujourd'hui par le tourisme ?
Oui, ouais, complètement. Parce que pendant un temps de vacances ou un temps de loisirs, on est beaucoup plus disponible. On est touché. Il ne faut pas négliger le facteur émotion. Le facteur émotion, il casse quelques petites barrières qu'on a en interne. Et le fait d'être touché par un territoire, par les gens qui y habitent, qui partagent, qui sont généreux, il y a tout un sens de l'hospitalité, le fait d'être disponible pour cela, on est réceptif à des messages. Et c'est d'ailleurs le pari que les parcs font avec cette nouvelle collection de séjours qui s'appelle Destination Parc, qui sont de vraies utopies rurales. C'est de faire le pari que pendant un temps de vacances, en présence d'accueillants qui ont fait des choix de vie assez assumés, sobres, mais joyeux, eh bien tout ça, ça peut inspirer une autre manière de vivre, de retour chez soi. Donc pour moi, le tourisme durable, les vacances éco-positives, c'est l'allié d'une transition écologique de la population, sûrement.
Je sais que le parc aussi promeut... ce qu'on appelle l'écotourisme. Qu'est-ce qu'on entend par là, Béatrice ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette notion ?
Alors, l'écotourisme, c'est un des enfants de la famille Tourisme Durable. Il est fondé sur... on pratique l'écotourisme quand on a comme désir de découvrir des espaces préservés, des patrimoines, qu'ils soient naturels ou culturels, en tout cas, pour lesquels il y a une véritable préservation d'engager, et en sachant que pratiquant un tourisme dans ces espaces protégés, on va concourir soi-même à le préserver. C'est être aussi en lien avec des territoires vivants dont les accueillants sont acteurs de la préservation et dont le tourisme est acteur d'un développement économique local. Voilà. Donc on retrouve les trois dimensions du tourisme durable, hein, le respect de l'environnement, le soutien à une économie locale et le caractère humain et social de la pratique. Ce qui le différencie du tourisme durable, qui peut se faire absolument partout, c'est que le motif premier, c'est on vient découvrir un territoire pour ses patrimoines que l'on sait préserver et que l'on va concourir à préserver. Le tourisme durable, plus largement, peut être une stratégie adoptée par un casino, je dis n'importe quoi, ou une station thermale. Donc, on n'a pas ce mobile de la découverte de milieux ou d'espaces préservés.
Parce que là, notamment, en termes de milieux préservés, il y a une réserve ornithologique, il y a la Leyre qu'on évoquait, il y a les grues aussi à découvrir. Est-ce qu'on peut-être prendre quelques instants, Béatrice, pour... évoquer ces lieux clés de ce qui fait peut-être du parc une destination écotouristique.
Ben volontiers. Et le fait est, c'est parce que ces milieux existent que cela nous a inspiré ce modèle de développement touristique. Hein. Il était le plus ressemblant, le plus adapté à notre territoire. La Leyre, c'est 100 km pratiquement de cours d'eau navigable, complètement encaissé dans le plateau landais. Il n'y a aucune route qui le longe. Hein. On peut très bien traverser les Landes sans savoir, si on n'est pas attentif au moment où on passe dessus sur l'autoroute, sans savoir qu'il y a ce trésor. Et nous sommes le seul parc naturel régional en France, en plus, à avoir l'entièreté du bassin versant d'un fleuve côtier. Donc, on ne peut le pratiquer qu'en canoë, en fait, que par chemin d'eau. Et il y a un travail d'engager dès l'origine de la création du parc. Hein. D'ailleurs, le premier nom du parc, ça a été le parc naturel régional des vallées et du Val de l'Aïr. Bon, comme c'était un peu long, on a vite changé de nom, on a bien fait. Il n'en demeure pas moins que ça reste la colonne vertébrale du parc, hein, complètement. Et ce que ça a de fort, c'est que ça lie un territoire qui est un territoire plateau landais, la forêt, hein, qui est notre matrice. Cette forêt, elle abrite des trésors, les lagunes. Les lagunes sont des plans d'eau circulaires qui remontent à l'origine glaciaire. Ce sont des reliques, hein, réellement, d'une époque où le paysage était complètement différent et dans lesquelles on retrouve des espèces surveillées de près, qu'il s'agisse de faune ou de flore, parce qu'elles ont un caractère assez unique en Europe. Sur ce plateau, d'autres trésors sont les aériaux ou les aériales, en alchois, bon, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais en gros, c'est ce paysage, cette pelouse sur laquelle se dispersent des bâtiments qui avaient avant la vocation d'accueillir une société rurale, agro-pastorale plus exactement, maison landaise à pente de bois ou pas, des dépendances, le four à pain, les petits poulaillers perchés, etc. Le tout ombragé de chênes et d'autres feuillus, ça c'est une caractéristique magnifique du territoire. Il y a d'ailleurs pas mal de prestataires éco-positifs qui accueillent dans leurs aériaux. Et puis si on descend l'Aïr, en effet, on arrive sur le débouché maritime de notre parc, sur le delta, sur le bassin d'Arcachon. Et si le bassin d'Arcachon existe encore avec cette ouverture sur l'océan, c'est parce que l'Aïr amène suffisamment de courant, de force pour empêcher la fermeture du cordon dunaire, hein, qui sépare le bassin de l'océan. Donc là, sur ce delta, c'est une mosaïque de milieux. Comme tous les deltas, c'est très très riche en milieux diversifiés. C'est la raison pour laquelle il y a des oiseaux qui font escale, qui nidifient automne, hiver, printemps et même en été. Donc d'où cette réserve ornithologique côtière. Si on parle d'oiseaux, on est toujours heureux chaque hiver de voir revenir les grues cendrées. Elles vont commencer à penser à repartir avec là les petits signes du printemps. Mais on est une des premières zones d'hivernage des grues cendrées en Europe. Et pourquoi ? Parce que elles ont ce qu'il faut pour garantir leur nourriture avec ce qui reste, les laisses de récolte des champs de maïs, mais aussi les zones humides, hein, dont elles ont besoin pour les unes contre les autres dormir les pieds dans l'eau à l'abri des prédateurs. Et c'est un spectacle dont on ne se lasse pas.
Qu'est-ce que ça veut dire un prestataire éco-positif ?
Alors, un prestataire éco-positif, c'est quelqu'un qui croit dans sa place dans un monde qui est beaucoup plus conscient de l'environnement, de ses valeurs et de l'humilité dont on doit faire preuve pour que ce soit durable et qu'on puisse le léguer à nos descendants. Donc c'est un acteur engagé, un prestataire éco-positif. Il a tout mis en œuvre pour limiter son impact sur l'environnement, de manière générale, avec souvent des matériaux biosourcés, des produits qui veillent à un entretien sans produits de synthèse. C'est évidemment une politique énergétique juste, on fait attention à l'eau, on a trouvé des solutions techniques pour réduire ses consommations d'eau, d'énergie. Bien sûr que les déchets sont aussi au centre de ces problématiques-là, parce que c'est un impact assez considérable. On jette beaucoup plus quand on est en vacances que quand on est chez soi, de même que l'eau, hein, c'est du simple au double. Hein, et quand on va vers les établissements de luxe, c'est pire encore. Donc, il y a cette facilitation pour le client à pratiquer des vacances durables. C'est aussi... prendre en compte les ressources du territoire pour s'approvisionner si on a une table d'eau d'hôte. Lorsqu'on envoie ses clients se balader, c'est d'avoir vraiment conscience des ressources de son territoire, de ses pépites. C'est d'avoir conscience des ressources de son territoire aussi comme artisan, savoir-faire. Donc c'est à la fois de l'économie circulaire, du localisme et du locavorisme en termes de production. Pour autant, ben, c'est, ça reste généreux. C'est pas du tout du repli sur soi. C'est des acteurs qui ont un sens de l'hospitalité fort et qui, justement, vis-à-vis de leurs clients, veillent à donner le meilleur du territoire. Donc, après tout un exercice collectif pour autour de ces valeurs-là, et avec l'aide quand même d'un spécialiste, parce qu'on n'a pas tous les métiers, on n'a pas Shiva là-dessus, hein, quand même, on les a nommés les imaginataires. Et ils se sont reconnus dans cette entité-là, le cercle des imaginataires, avec un clin d'œil au cercle qu'on aime beaucoup, nos cercles gascons ici.
Et donc ça, ce sont vraiment des acteuristes qui sont installés sur le parc, dans le parc.
Le parc et autour, puisque okay. Là, on travaille à une échelle un petit peu plus vaste depuis longtemps, hein, le Pays Morcenais, les Landes d'Armagnac, mmh. Le Sud Gironde. On a aujourd'hui une cinquantaine d'accueillants qui ont signé cette charte d'engagement. C'était à l'automne dernier, le 26 novembre, à Capsieu, à l'occasion de notre forum du tourisme durable. On était très fiers de ce moment-là. Et il s'agit d'hébergement, beaucoup bien sûr, mais pas que, des prestataires de loisirs, des sites, l'écomusée de Marquèze, des prestataires de canoë. Voilà. Donc, c'est une grande famille qui se reconnaît dans ses valeurs et elle continue à grandir tous les jours. On a une collègue, Marilyn, Caroline, qui va parler également tout à l'heure, a été de cette aventure. Salut à Mickaël à l'occasion. Donc voilà, c'est du côté technique aussi, c'est très engagé, on peut le souligner.
Ces personnes-là, j'imagine, ont un rôle aussi à jouer dans l'économie. On sait que le tourisme est un pôle économique important. Et donc, l'adaptation à ces crises qu'on évoquait en début d'entretien, j'imagine qu'elle se fait avec la création de dispositifs ou de labels comme les imaginataires. Mais est-ce qu'on peut peut-être évoquer cette adaptation, comment elle prend en compte ces différentes crises et ces évolutions?
Alors, c'est peut-être l'occasion de parler du volet marketing de tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les crises ont quand même été accompagnées par des dispositifs d'aide dont certains des prestataires, comme partout dans le monde du tourisme, ont pu bénéficier. Nous, on s'est fait relais de ça. Mais c'est évidemment pas une solution. Non, ce qui est important, c'est d'anticiper, c'est de comprendre dans quel sens le tourisme va et d'interroger son offre de services, ses prestations, son équipement. Et nous, on a tenu à engager un vrai travail sur l'identification des clientèles. Quelles étaient les clientèles qui étaient sensibles à ces valeurs, qui étaient prêtes à venir dans des territoires qui étaient plus confidentiels, de vivre des expériences différentes et comment, pour les clientèles qui avaient tout simplement un désir de bonheur, de retrouvailles en famille, ça pouvait également représenter une valeur ajoutée. Donc ça, c'est un travail de fond qui consiste à identifier ces consommateurs, d'identifier leurs attentes, de pointer ce qui peut les séduire, et ensuite de passer au crible ce que l'on est. Hein, c'est un regard lucide sur ce que l'on offre, et de voir quel est le niveau du curseur, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire améliorer. C'est la raison pour laquelle chacun a sa petite feuille de route, sa démarche de progrès. Et ça se traduit de manière concrète par de l'adaptation de ses offres, de ses services et par le montage de produits touristiques. Et nous, on joue un rôle de facilitateur là-dedans. Le projet collectif qui concerne les imaginataires, que l'on mène avec les communautés de communes, les offices de tourisme, qui est aidé par la région, les départements, c'est important de le souligner aussi, ben, il va aboutir à un site internet qui sera mis en ligne fin mars. Et justement, c'est une vitrine, une collection de ces escapades éco-positives. Passer des vacances autrement, c'est possible, et c'est chez nous. Et voilà qui offre ces jours-là. Et donc, on sera très fiers d'en parler dès qu'il sera mis en ligne. On est d'arrache-pied dessus. Donc voilà, ça passe évidemment par ce type de démarche, d'être toujours en vigilance des attentes de ses clientèles et d'être peut-être en anticipation de ce qu'elles manifestent.
Merci beaucoup, Béatrice Reynaud.
Merci, Margot.